Il est 7h.
Je vais écrire aux médecins, je vais écrire aux infirmières, je vais écrire aux sages-femmes, je vais écrire aux kinés, à tout le monde. Et je vais leur dire que ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés. Et je leur demande de se faire vacciner.
La vaccination contre le Covid sera-t-elle bientôt obligatoire pour les soignants? Le gouvernement met la pression alors qu'ils ne sont qu'un tiers à s'y être pliés. 12 interpellations à Lyon cette nuit. Des jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre. Renforts envoyés aussi à Beauvais où 3 policiers ont été blessés. Au-delà de l'image historique, qu'attendre de la première visite du pape en Irak? Le pape François arrive sur place aujourd'hui. On rejoint notre envoyé spécial. Et puis, un mois après la liesse des vainqueurs, le dernier concurrent du Vendée Globe coupe la ligne tout à l'heure au Sable de C'est dans ce journal, bien sûr. Juste après ce journal, les bénéfices du CAC 40 divisés par 2 l'an dernier, ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette.
Le pape François en Irak, c'est un pèlerinage très politique auprès des chrétiens d'Orient, mais aussi auprès de l'islam chiite.
À 7h20, l'édito sport de Virginie Fulpin, puis enfin nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire comme tous les matins. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous ne sommes pas confrontés à ce stade à une hausse exponentielle de l'épidémie. Jean Castex a donc confirmé hier soir que seul le Pas-de-Calais serait reconfiné pour les 4 prochains week-ends. 3 départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, rejoignent la liste rouge des surveillances renforcées. Mais un point a fait tiquer le Premier ministre et son ministre de la Santé. Le manque toujours de vaccination chez les soignants.
On vous en parlait ici même, hein, il y a 2 jours, ils ne sont qu'un tiers à être vaccinés. Le Covid est la première maladie nosocomiale aujourd'hui. Jean-Rémy Baudeau, le gouvernement envisage donc de rendre obligatoire ce vaccin chez les blouses blanches?
Alors officiellement, c'est uniquement une piste. Le sujet a été abordé lors de récentes réunions à l'Élysée, mais plusieurs sources laissent entendre que le cœur du président ne balance plus sur cette question. La vaccination obligatoire des soignants est actuellement sur la table. La raison est simple, comment expliquer aux Français que certains réfrigérateurs sont pleins de vaccins pour le personnel médical, alors même que d'autres populations en manquent? Seul un soignant sur 3 est vacciné, ça n'est pas normal, a déploré hier soir Jean Castex. Au ministère de la Santé, on a bien noté la défiance qui s'était installée concernant le vaccin AstraZeneca, ses éventuels effets secondaires. Mais le temps de la réticence est derrière nous, voilà ce que veut croire Olivier Véran, qui va adresser aujourd'hui une lettre aux soignants pour les remercier de leur engagement et leur demander instamment de se faire vacciner. Encore un peu de pédagogie avant une méthode plus forte. Le ministre de la Santé n'exclut pas une saisine du Conseil consultatif national d'éthique sur le sujet. Une étape de plus vers une possible obligation vaccinale pour les soignants.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Alors que répondent justement ceux qui sont en première ligne depuis des mois dans les hôpitaux ou les EHPAD? Il y a ceux qui disent attendre le vaccin Pfizer, plus efficace que l'AstraZeneca. Et puis ceux qui n'ont toujours pas confiance, comme Valérie, infirmière dans un EHPAD.
Je ne suis pas du tout anti-vaccin, je vous dis, nous avons tous nos vaccins un jour. Mais ce vaccin qui, on n'a pas de recul, donc oui, moi je ne sais pas dans 10, 15 ans quels vont être les effets sur notre santé, sur notre système immunitaire. Et je préfère, tant pis, jouer à pile ou face et peut-être risquer ma vie, mais autant professeurs qu'ils soient, je ne pense pas qu'ils peuvent nous dire dans 10 ans, ce vaccin aura cet effet-là.
Oui, enfin pile ou face, le jeu de hasard. 50-50, c'est aussi le jeu de hasard avec la santé des autres, en l'occurrence, faut aussi le souligner. Pour accélérer la campagne dans la population générale, les pharmaciens pourront vacciner directement en officine d'ici 10 jours et des centres de vaccination éphémères seront mis sur pied dès ce week-end.
135 000 doses supplémentaires envoyées aussi dans des départements prioritaires. L'exécutif veut vacciner 30 millions de personnes d'ici l'été, soit les 2/3 des adultes. C'est 10 fois plus qu'aujourd'hui.
Et on va reparler à 8h15. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie, en charge justement du déploiement logistique de la vaccination. Elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Tandis que la guerre des doses se poursuit à l'échelle mondiale.
Avec cette première en Europe, l'Italie bloque l'exportation vers l'Australie de milliers de doses AstraZeneca produites près de Rome. L'Union européenne montre les dents face à la pénurie et au retard d'approvisionnement du laboratoire anglo-suédois.
7h04 sur Europe 1. 12 interpellations dans le quartier de la Duchère à Lyon après des heurts hier soir entre des jeunes et la police.
Plusieurs voitures incendiées. Ces jeunes accusent les agents d'avoir causé l'accident de scooter d'un adolescent de 13 ans qui circulait sans casque mercredi. Il se trouve dans le coma. Des renforts policiers doivent aussi être envoyés à Beauvais, dans l'Oise, où le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur sont attendus ce matin. 3 policiers y ont été blessés après des échauffourées sur fond de lutte contre le trafic de drogue en début de semaine. Ça s'est passé dans le quartier d'Argentine, où s'est rendu Nicolas Feldman.
Les vidéos tournent encore sur tous les téléphones. Des policiers visés par des tirs de mortiers d'artifice. Un peu plus loin, une voiture est en feu.
Ici. Ça parle partout, télé, réseau, tout ce que vous voulez.
Ça arrive pas souvent quand même, c'est un grand truc quoi.
Et pourtant, ces jeunes ne semblent pas surpris.
Ici, il y a beaucoup de ventes de drogue, hein. Ça circule beaucoup.
Maintenant, tu peux voir une personne, elle est là, juste à côté de toi, elle va échanger un pochon. Qu'avant, c'était plus caché.
Les policiers, ils empêchent. Et du coup, voilà, c'est les jeunes, ils s'en prennent à eux. Et voilà.
Au pied des barres d'immeubles, les voitures calcinées ont disparu. À la place, des cars de CRS patrouillent. 60 gendarmes ont été dépêchés cette semaine à Beauvais. Mohamed Betraoui, responsable des centres sociaux.
Cette présence s'est fait ressentir et il y a une sécurisation qui est plus importante aujourd'hui. Ça dénote aussi que malheureusement sur le territoire, on aimerait espérer davantage de forces de police à Beauvais. Plus de police, ça veut dire plus de proximité, ça veut dire plus de le sentiment d'être en sécurité, vivre sereinement avec sa famille, etc.
Pour sécuriser ces quartiers, la maire de Beauvais réclame une vingtaine de policiers supplémentaires.
Nicolas Feldman depuis Beauvais pour Europe 1.
L'image s'annonce historique. Le pape François entame aujourd'hui sa visite en Irak.
C'est la toute première fois qu'un souverain pontife se rend dans le pays, considéré comme l'un des berceaux du christianisme. Visite sous haute sécurité, à la rencontre des chrétiens d'Orient, mais aussi des figures de l'islam chiite. Jean-Sébastien Soldaini est notre envoyé spécial à Erbil.
Le pape se rend samedi au Vatican des chiites, la ville sainte de Najaf, là où réside le plus souvent loin des regards l'ayatollah Ali Sistani, le plus haut dignitaire de cette branche de l'islam. Une rencontre en tête-à-tête organisée dans la plus grande discrétion avec tout de même trois allers-retours d'une délégation vaticane. François poursuit là son entreprise pour installer un dialogue avec toutes les autorités de l'islam. Mais attention, le Vatican prévient, il n'y aura probablement pas de déclaration commune. Il faut laisser les deux hommes s'apprivoiser avec ce premier entretien privé. Dimanche, ce sera différent devant les fidèles, même si le pape ne pourra pas profiter d'un bain de foule. Les autorités locales mettent en avant le risque de contamination au Covid. Il donnera tout de même une grand-messe dans le stade d'Erbil, dont la capacité est réduite de 40 000 à 10 000 places, là encore pour respecter les distances physiques. Il n'y aura pas de papa mobile, c'est dans une berline allemande blindée que François devrait faire son entrée dans le stade. Une voiture sans vitre teintée pour que les fidèles puissent l'apercevoir. Erbil, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Les Nations Unies appellent à un embargo mondial sur les livraisons d'armes à la Birmanie. Réunion du Conseil de sécurité aujourd'hui, alors que 54 personnes sont mortes depuis un mois dans les manifestations réprimées contre le coup d'État. Inquiétude aussi au Sénégal, où un manifestant est mort hier en Casamance. C'est dans le sud du pays où l'opposition proteste, vous l'entendez, contre l'arrestation d'un de ses leaders, Ousmane Sonko. Les autorités ont suspendu deux chaînes de télévision privées pour avoir relayé les images de ces violences dans les rues.
Un procès pas comme les autres au volet judiciaire à Toulouse aujourd'hui.
Quand un ancien haut responsable des impôts comparaît avec son épouse pour corruption et prise illégale d'intérêt, suspecté d'avoir prévenu ses amis, restaurateurs ou experts comptables qu'ils allaient subir un contrôle fiscal, Benjamin Peter, ce sont ses propres subordonnés qui l'ont finalement débusqué.
Ils ne s'attendaient pas à ça. Qu'en fin 2018, ils enquêtent sur une fraude massive de plusieurs restaurants du centre-ville, les inspecteurs des impôts ont la surprise de tomber sur des échanges de mails et de textos entre un restaurateur et leur propre patron, Marc Mainviel, le directeur départemental adjoint du pôle fiscal. Le ton est amical, on se tutoie, au point qu'ils soupçonnent leur supérieur et son épouse, elle aussi haut fonctionnaire des impôts, et qui avaient leurs habitudes dans cet établissement, d'avoir prévenu le chef d'entreprise de l'imminence d'un contrôle. Mais pour l'avocat du couple, maître Laurent Boguet, rien ne permet de l'affirmer.
Ils n'ont jamais fourni le moindre renseignement sur le calendrier de la procédure fiscale qui a été menée à l'encontre de ce restaurateur. Il appartiendra à la justice d'établir si un administrateur des finances publiques, qui éprouve comme tout à chacun le besoin d'aller se restaurer tous les midis, parfois en compagnie de son épouse, a la possibilité ou pas d'entretenir des relations d'estime et non pas des relations amicales avec le restaurateur en question.
L'enquête va révéler qu'ils auraient également avantagé un ami expert comptable lors d'un contrôle fiscal. La défense, elle, dénonce une enquête à charge et va demander dès le début de l'audience tout à l'heure l'ouverture d'une information judiciaire. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
Enfin, on pourrait l'appeler, Mathieu, le voilier balai, le dernier concurrent du Vendée Globe attendu aujourd'hui au Sable d'Olonne, plus d'un mois après les vainqueurs. C'est un Finlandais, il s'appelle Harri Usela et il aura donc passé 116 jours, Cyril de la Morinerie, 116 jours seul en mer.
Et vous savez ce qu'il fait dans la vie ?
Non.
Il est pilote de ligne.
Eh ben.
Et il est... Ça doit le changer. Non, non, mais il est aux commandes d'un Airbus 350 de la compagnie Finnair. Alors ça, c'est dans la vie. Hein.
Plus vite.
Ça va plus vite, effectivement. Mais il y a des turbulences, peut-être un peu moins fortes que sur un voilier. En tout cas, c'est un marin typique de 58 ans qui a découvert la voile sur le tard à l'âge adulte. Il a fait quelques courses, hein, notamment la route du Rhum. Mais c'est un néophyte dans ce Vendée Globe. Le Finlandais barbu au crâne chauve, c'est plutôt bien débrouillé, la preuve. Même s'il termine son périple exténué, le directeur de course, Jacques Carès, est admiratif.
J'ai l'impression qu'il navigue avec son bateau comme sur un Airbus, c'est-à-dire qu'il est très préparé, il n'est pas dans l'excès, il est toujours à se positionner habilement, mais sans se mettre en difficulté. Je pense que son bateau va revenir dans un état parfait, à mon sens. Et c'est vrai que le personnage est finalement assez fascinant parce qu'il a le même ton de voix du début jusqu'à la fin. Et c'est un personnage attachant.
Harry Uusela est attendu aujourd'hui entre 7h30 et 13h30 sur le ponton des Sables d'Olonne. Il va entrer dans la légende du sport finlandais en devenant le premier marin de son pays à boucler un Vendée Globe. D'ores et déjà à Helsinki, c'est une star. Le Nicolas Canteloup local l'a déjà intégré à l'un de ses sketchs. Oui, oui.
Merci beaucoup. Donc, oui, je pense que c'est la postérité. Là, quand on est dans les sketchs de Nicolas Canteloup,
finnois, ouais.
Y compris en Finlande, c'est, oui, on peut passer à autre chose.
Et bravo à lui, quand même. Mine de rien, je ne savais pas qu'on avait encore des concurrents sur le Vendée Globe. On va suivre son arrivée. Merci Théo Manval. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Frère Olivier Poquillon. Un moine dominicain installé en Irak depuis septembre 2019, il a pour mission la reconstruction d'un couvent à Mossoul. Avec lui, nous allons parler résilience des Irakiens, des chrétiens d'Orient. Il sera l'invité du tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Mais nous revenons sur ce voyage historique avec Vincent Hervouet dans quelques toutes petites minutes. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et le virus a fait fondre de moitié les profits des entreprises du CAC 40 l'an dernier, les dividendes aussi. Alors qu'en sera-t-il cette année? Le rebond se profile, mais pas pour tout le monde.
A tout de suite Nicolas et bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Les profits des entreprises du CAC 40 ont été divisés par deux l'an dernier. La chute est plus sévère que lors de la crise de 2008, mais le rebond sera peut-être plus rapide.
Oui, alors 39 milliards d'euros de profits l'an dernier seulement, contre 80 milliards l'année précédente. C'est dire l'ampleur du choc. Moins de profits, il faut toujours le rappeler quand même, c'est moins de capacité à investir, à se développer et donc à créer des emplois. Bref, ça laisse des traces. Mais la bonne nouvelle en effet, c'est que l'activité est repartie. Faut avoir en tête ceci, au premier semestre de l'an dernier, au pire de la crise, toutes les entreprises, toutes du CAC 40 étaient en perte, du jamais vu. Au deuxième semestre, la moitié seulement l'était encore. Et presque toutes ces entreprises du CAC 40 ont fait état de perspectives bien meilleures pour cette année, quel que soit le secteur, dans l'industrie automobile, dans le luxe, dans la finance, etc.
À l'heure du bilan, on peut dire que les actionnaires ont payé cher cette année de crise.
Ah ça c'est vrai, les entreprises ont taillé dans leurs dividendes, qui ont chuté de 42%, parfois sous la contrainte d'ailleurs, c'est le cas des banques, puisque la BCE les a obligées à garder tous leurs profits en réserve pour faire face aux impayés sur les crédits de la crise. Les épargnants qui ont placé une partie de leurs économies dans des actions ont donc été mis à contribution dans cette crise. La perte ou la baisse du dividende fait partie du risque associé au fait d'être actionnaire. Cette année devrait cependant marquer un début de retour à la normale. 32 sociétés du CAC 40 ont déjà annoncé leur intention de verser des dividendes.
La crise a aussi modifié la hiérarchie des entreprises, du CAC 40.
Oui, ça c'est tout à fait frappant. Il y a une tendance lourde qui préexistait à la crise mais qui s'est accentuée, c'est le poids du luxe dans le CAC 40. Les quatre géants français de cette industrie, LVMH, L'Oréal, Hermès et Kering, représentent un tiers désormais de la valeur de l'ensemble du CAC 40, 600 milliards d'euros. Le leader du secteur LVMH a gagné 20% l'an dernier et est même devenu la première capitalisation boursière européenne devant Nestlé. À l'inverse, ceux qui dominaient jadis le classement comme Total, où les valeurs bancaires ont chuté. Alors, outre le luxe, les gagnants sont les valeurs technologiques comme Worldline, qui est spécialisée dans les paiements, ou encore Téléperformance. Des groupes industriels aussi comme Schneider, Legrand ou l'Air Liquide, une des valeurs favorites des épargnants, ont également très bien tiré leur épingle du jeu. Comme souvent dans les crises, les plus forts sortent renforcés.
Merci Nicolas Barré, il est 7h15 et nous retrouvons Vincent Hervouet pour son regard international. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Le pape François en Irak, c'est un voyage très politique.
Oui, les rares chefs d'État qui se sont aventurés en Irak depuis 40 ans l'ont fait en coup de vent et sans le faire savoir à l'avance. En général, ils se cantonnent à l'aéroport. Le pape François n'a pas ses prudences. Il passe 3 jours sur place. Le programme est annoncé depuis des semaines. Le Covid le privera de bains de foule et de papa mobile, mais il sera une cible facile, notamment dans ses déplacements en hélicoptère entre Bagdad, Our, Najaf, Mossoul, Erbil.
Et d'ailleurs, les risques qui sont pris, ça fait débat. Je voyais ça en Italie, on va en parler avec mon invité à 7h40. Pourquoi prend-il ces risques, Vincent ? Que va-t-il faire dans cette galère ?
Ben, on pourrait croire qu'il défie le diable et que c'est normal pour un pape. On aurait tort. Vatican rime avec prudent. Il y a une part d'épate chez François. Ça doit lui plaire de faire le voyage que n'a jamais pu réaliser Jean-Paul II, qui n'avait peur de rien. Ce pays ravagé par la guerre, c'est la destination idéale pour celui qui appelle sans cesse les chrétiens à se porter aux périphéries. Il sera donc le premier pape sur la terre d'Abraham que vénèrent les 3 religions monothéistes. Il y a rendez-vous avec l'ayatollah Ali Sistani, le vieux chef de la communauté chiite, et ça doit lui plaire de prêcher par l'exemple le dialogue avec l'islam. Ce sera aussi un voyage pastoral à la rencontre des chrétiens qui sont accrochés à cette terre depuis 2000 ans, les chaldéens, syriaques, melkites, arméniens, toutes ces églises d'Orient qui reconnaissent la primauté de Rome. Elles étaient chrétiennes avant que l'Occident le soit. Si leur sort importe tant désormais aux Européens, c'est qu'il semble préfigurer celui qui les attend. C'est l'effet miroir qui fait qu'on parle de leurs martyrs à la télé. Le pape dira la messe dans des églises qui ont connu le même genre de crime rituel que celui du père Hamel à côté de Rouen.
90% des chrétiens auraient fui les persécutions depuis 20 ans.
On en recensait près de 2 millions avant la tempête du désert en 1991, encore 1,5 million en 2003 à la chute de Saddam Hussein, 150 000 désormais selon l'aide à l'Église en détresse. Au nom de la liberté, George Bush, père et fils, ont détruit l'Irak et réveillé le djihadisme. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Les chrétiens ont été immolés. Hier, le Vatican sonnait le tocsin et on refusait de l'écouter. Aujourd'hui, François va sur place pour qu'on l'écoute enfin.
Merci Vincent Hervouet, le regard international et j'attire votre attention, j'ai beaucoup parlé de mon invité à 7h40, frère dominicain installé à Mossoul. Nous serons aussi à 8h avec notre envoyé spécial à Mossoul, Jean-Sébastien Soldaini, ce matin sur Europe 1, 7h18. Tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin sur Europe 1.
Estelle Mosley et Tony Yoka sur le ring ce soir à Nantes. Profitons-en parce qu'on n'est pas sûr de revoir de sitôt des boxeurs français champions olympiques. La crise sanitaire fait mourir la boxe amateur à petit feu.
Et ce sera juste avant votre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Grande soirée de boxe ce soir à Nantes avec Tony Yoka et Estelle Mosley. Pour vous, le problème, c'est que derrière cette soirée alléchante, ça brille beaucoup moins pour la boxe amateur en France et on n'est pas sûr de revoir des champions olympiques français de sitôt.
Bah Estelle Mosley et Tony Yoka, ce sont des fiertés nationales, hein, les symboles d'une France qui gagne sur les rings. On a tous envie de rêver ce soir en regardant Tony Yoka tenter de conquérir sa première ceinture européenne et Estelle Mosley défendre son titre IBO des légers. Mais cette soirée professionnelle ne reflète en rien l'état actuel de la boxe amateur en France. C'est même l'exact inverse, la partie émergée de l'iceberg, celle qui brille et qui gagne et tout le reste, c'est plutôt le Titanic. Quand reverra-t-on des boxeurs français champions olympiques comme ce couple en or de Rio ? J'espère que ce sera le cas dès cet été à Tokyo, mais ça va être très compliqué. Pour l'instant, ils ne sont que 2 à être sélectionnés pour les JO. Tous les tournois amateurs sont arrêtés, personne ne peut s'entraîner, les clubs sont fermés. La crise sanitaire est en train de porter un coup fatal à la boxe. Il faut se rendre compte de ce que vit cette fédération qui a perdu la moitié de ses licenciés depuis un an. Elle cumule les handicaps, c'est un sport qui se pratique en intérieur. Donc comme tous les sports de salle, les premiers à s'arrêter, les plus pénalisés par la crise. C'est une petite fédération, donc c'est plus difficile de résister financièrement. Dans les premiers mois, elle a puisé dans ses réserves pour continuer à payer ses salariés. Mais aujourd'hui, les caisses sont vides et le personnel au chômage partiel. Et comme c'est toujours l'incertitude sur l'avenir, le moral flanche autant que les adversaires d'Estelle Mosley et Tony Yoka à Rio.
La boxe, c'est aussi un lien social qui est mis à mal en ce moment.
La boxe, peut-être plus encore que d'autres sports, a un rôle social important chez les plus jeunes, les adolescents, notamment dans les quartiers populaires. Beaucoup de boxeurs ont déjà témoigné de ce que la pratique du noble art a apporté dans leur vie pour se développer, se structurer, pour faire des rencontres déterminantes, pour les empêcher de déraper aussi parfois. Et là, avec la crise, ce lien social a disparu. Donc vous avez pas mal de jeunes qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et ce qui inquiète les clubs de boxe, les associations, c'est qu'une partie de ceux qui étaient licenciés ne reviennent jamais sur les rings. Ce qui serait dramatique pour la boxe et pour ces jeunes, un combo perdant-perdant. Il y a moins de paillettes qu'avec Estelle Mosley et Tony Yoka, c'est vrai. J'aimerais bien qu'à l'occasion de ces combats à Nantes ce soir, on pense aussi à l'avenir de la boxe amateur en France et aux aides dont le secteur a cruellement besoin. Parce que sinon, derrière les belles affiches, l'envers du décor ne sera plus qu'un champ de ruines.
Merci Virginie Fulpin, l'édito sport tous les matins sur Europe 1, 7h23. Et nous retrouvons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Lundi, c'est la journée de la femme. Alors, avant de la célébrer, on a raison de le faire, demandons-nous d'où elle vient. Enfin, d'où vient le mot « femme ».
Ah oui.
Hein, vous avez compris. Au XVIIe siècle, César Pierre Richelet, grammairien et lexicographe, est l'un des premiers rédacteurs de l'un des tout premiers dictionnaires de la langue française. Et en 1680, il donne cette définition de la femme, créature raisonnable, faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme.
Tout est faux là-dedans.
Tout est faux. Et moi qui suis féministe, ça m'agace. Femme vient du latin femina. Cela désigne tout simplement la femelle. Femina vient de fée, un mot issu d'une langue indo-européenne. Fée signifiait têter. Cela a donné d'ailleurs les prénoms Félix et Félicité, qui signifient heureux comme un bébé qui tète.
Oui.
Toujours en latin, deux mots étaient des synonymes de femina, moulière, qui désignait un être de sexe féminin. En ancien français, on disait moulier. Et uxor, en latin, cela signifiait plutôt le rôle d'épouse. En ancien français, on disait oisour, un mot qui a disparu à la première moitié du XIIIe siècle, car finalement, en français, on dit femme pour tout, pour épouse, pour femme, pour genre féminin. Et c'est bien plus simple. Allez, deux jolies citations misogynes sur les femmes. La première est de l'humoriste Pierre Doris, donc ça reste un monument historique. « Tous les matins, j'apporte à ma femme le café au lit, elle n'a plus qu'à le moudre. » Et une petite deuxième pour la route, une citation du fantasque champion de tennis, Elie Nastase, je n'ai pas déclaré à la police le vol de ma carte bleue. La personne qui me l'a prise ne pourra jamais dépenser autant que ma femme.
Et ce qui renvoie à la première définition, quand même, dans un des premiers dictionnaires, créature raisonnable faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est des hommes qui donnent les définitions. C'est ça, hein, c'est le problème.
Il faut toujours regarder qui est l'auteur de la définition.
C'est plutôt personnage qui rend l'homme raisonnable. voilà ce qui me conviendrait davantage. N'est-ce pas, Virginie?
Ça travaille de chaque instant.
On prend. Merci, Stéphane. 7h26 sur Europe 1 à suivre. La météo et l'info avec Sophie Echen. 7h28 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous.
Et voici quelques régions où il pleuvra aujourd'hui. L'Alsace, la Franche-Comté, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Haute-Vallée du Rhône. Ce sont les seules régions, pratiquement, où la pluie sera là. Un voile d'altitude sur le sud-ouest, oh, c'est très léger. Un voile d'altitude aussi sur la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur. Des éclaircies qui vont se déployer sur les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Berry, la région parisienne, le Morvan, la Lorraine et le Rhône. Ce sera pas mal non plus dans ces contrées. Vous voyez que finalement, l'amélioration se dessine. Elle se dessinera d'ailleurs de manière très spectaculaire sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, puisque là nous avons pas mal de nuages et il fera beau dans l'après-midi avec du soleil et avec la fameuse bise, cette bise qui nous vient de loin, qui nous vient de Russie à des vitesses de 60-70 km/h. Et la bise fait le bruit d'un géant qui soupire, la fenêtre palpite et la porte respire. Ça, c'était Victor Hugo qui parlait de la bise.
Oui, mais on n'avait pas de son à l'époque. C'est quoi un géant qui soupire?
Merci, on va rester là. Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Tout est possible, je vous le dis, tout est possible. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, très bon réveil à tous, un nouveau journal, il est presque 7h30.
C'est vraiment crucial cette année d'avoir une collecte qui se passe bien, qui soit extrêmement généreuse. Cette année, c'est très très important effectivement que cette collecte soit une réussite.
Le président des Restos du Cœur compte sur votre mobilisation. Coup d'envoi de la collecte d'été aujourd'hui en pleine crise sanitaire. Pas de Calais, pas de week-end. Le département se reconfine à partir de demain matin. Complètement illogique pour les habitants des communes frontalières du Nord qui n'est pas concerné par la mesure. Après Beauvais, encore des violences urbaines cette nuit, cette fois dans un quartier sensible de Lyon. Et puis le fauteuil maudit de l'Académie française. Ce n'est pas le titre d'un nouveau polar, mais c'est bien là que devra désormais siéger Pascal Horry, fraîchement intronisé.
Juste après ce journal, La Touche Âme, avec Bertrand Chamerois, 7h40. Olivier Poquillon, frère dominicain installé en Irak depuis 2019 pour reconstruire. Il va rencontrer le pape ce week-end lors de son voyage historique. On va en parler dans le tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, c'est Nicolas Bétou avant 8h.
Et prise de judo, ça rime avec Anne Hidalgo. On va voir comment est-ce que la maire de Paris, après son gros couac de la semaine dernière, à retourner les événements en sa faveur.
Et juste après, Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, la ministre déléguée en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Chaque année, ils comptent sur vous et certainement plus en ce moment. Les Restos du Cœur lancent leur collecte d'été aujourd'hui en pleine épidémie de coronavirus. Évidemment, les besoins sont plus importants. Plus de 2 millions de personnes bénéficient de l'aide alimentaire actuellement. Plus de la moitié d'entre eux disent y avoir recours depuis moins d'un an.
Bonjour Yasmina Katou.
Bonjour.
Avec les contraintes sanitaires qu'on connaît, forcément cela demande pas mal d'adaptation selon les départements.
Effectivement, dans l'Orne, en Normandie, les Restos du Cœur ont dû s'organiser avec un peu moins de bénévoles cette année. Majoritairement retraités, certains volontaires étaient craintifs. Ceux présents auront un masque FFP2. Tout est pensé pour que les gestes barrières soient respectés, explique Catherine Weber de Riz, responsable départementale.
Il va y avoir des chariots, des cartons, et au lieu de donner des sacs plastiques pour que les gens mettent les achats qu'ils veulent nous donner, et ben là, ils vont les sortir de leur sac propre et nous le mettre dans le chariot directement. Mais il n'y a pas de contact physique de main à main.
Du côté de Dunkerque, où la situation épidémique est critique, la collecte est tout simplement reportée. Mais en attendant, Isabelle Cousin, responsable départementale, espère ne pas manquer de denrées.
Ce qui nous manque très souvent au niveau des approvisionnements, ce sont des produits frais. Par exemple, les légumes frais, les fruits frais. Alors à nous à trouver au niveau des invendus des grandes surfaces et moyennes surfaces pour avoir ces produits.
Sur toute la France, seulement 10 départements reportent leur collecte qui devrait avoir lieu après l'été.
Et vous avez jusqu'à dimanche soir pour participer à la collecte. Ce soir, c'est le traditionnel spectacle des Enfoirés sur TF1 pour la première fois sans public.
C'était attendu, mais Jean Castex l'a officialisé. Le Pas-de-Calais se reconfine ce week-end.
Et près d'un million et demi d'habitants qui devront rester chez eux à partir de demain matin 6h jusqu'à dimanche soir 18h. Le département du Nord, voisin, n'est pas concerné. Alors forcément, dans certaines villes limitrophes, côté Pas-de-Calais, on a du mal à comprendre la décision du gouvernement, comme à 8, où s'est rendu Maximilien Carlier pour Europe 1.
C'est un village de 1000 habitants traversé par une route nationale. Une église, une école, un restaurant fermé et juste après la boulangerie, Blaringhem, autre commune, mais elle située dans le Nord. Sylvain, qui vit à 8, est agacé par cette situation.
Il n'y a rien à comprendre ici. En 50 mètres d'écart, il n'y a pas de confinement. Où on va ? Gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ?
Bon, cet habitant me l'a confirmé, il va tricher. Les mesures de restriction, c'est non.
On va quitter le Pas-de-Calais pour aller dans le Nord, pour profiter de l'air pur. On sera libre, on ira faire de la marche, du vélo à l'extérieur.
Beaucoup de Huitois feront la même chose, selon le maire Pascal Danvin, qui aurait préféré que les deux départements soient confinés.
Bah, c'est pas logique. Aucun sens. Aucun sens pour nous, petite commune. Je me pose la question si sur 8, on a au moins un cas de Covid. Je pense qu'il n'y en a même pas. C'est comme ça, c'est tout. C'est une décision du préfet, de l'État, je pense. On applique ce qu'on nous demande de faire, mais je pense que le cœur, il n'y est plus, quoi.
Et plusieurs petites communes rurales du Pas-de-Calais ont l'impression de payer pour les autres villes sur le littoral plus importantes qui attirent les touristes et qui favorisent le brassage. 8, Maximilien Carlier, Europe 1.
En tout, 23 départements passent sous surveillance renforcée. Dans ces zones, les centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés resteront fermés jusqu'à nouvel ordre.
Rien à voir avec la crise sanitaire. Jean Castex et Gérald Darmanin sont attendus dans l'Oise ce matin à Beauvais pour parler sécurité et renfort de police.
Après deux nuits de violence en début de semaine, à Beauvais et Compiègne, 3 policiers ont été blessés dans des affrontements avec des jeunes sur fond de lutte contre le trafic de drogue. Des heurts également à Lyon la nuit dernière dans le quartier de la Duchère. Feux de poubelles et de voitures, tirs de mortiers d'artifice, 12 personnes interpellées. Des scènes de violence qui font suite à l'accident de scooter d'un adolescent de 13 ans. Selon des jeunes du quartier, il aurait été poursuivi par une voiture de police banalisée. Rumeur démentie par la préfecture.
Y aura-t-il bientôt des amendes pour obliger les entreprises à réduire les inégalités hommes-femmes ?
C'est en tout cas ce que préconise la Commission européenne via une série de recommandations pour garantir l'égalité des salaires à travail égal. Les femmes doivent savoir si leurs employeurs les traitent équitablement et lorsque ce n'est pas le cas, elles doivent avoir le pouvoir de se défendre et d'obtenir ce qu'elle mérite, selon la présidente de la commission, Ursula von der Leyen.
Et puis, un nouveau locataire sous la coupole de l'Académie française. L'historien Pascal Horry vient d'être élu.
Il prend la place de François Veillargues, décédé en 2019. Mais surtout, Pascal Horry hérite du fauteuil numéro 32, un fauteuil prétendument maudit. Nicolas Carreau.
C'est une légende qui court depuis la parution du roman de Gaston Leroux intitulé « Le fauteuil hanté » en 1909. Un mage, furieux de n'être pas admis au sein du Cénacle, aurait jeté un sort et maudit le fauteuil numéro 32. Des affabulations, sans doute, mais depuis, il faut quand même bien admettre que certains académiciens assis sur ce fauteuil ont joué de malchance. Selon le journal Le Point, l'historien Robert Aron, en 1974, est mort 6 jours avant son discours de réception. Alain Robbe-Grillet, même fauteuil, n'a jamais siégé. Hippolyte Langlois ne s'y est assis que 7 mois avant de mourir. Lucien Bonaparte, radié de l'Académie. On peut citer aussi le dramaturge Louis-Simon Augier en 1829, retrouvé mort dans la Seine. Il s'y serait jeté depuis le pont des Arts en quittant la coupole. Ça fait quand même un triste palmarès pour des immortels.
Nicolas Caro, et on va s'élever encore au-delà de la coupole pour terminer. Des astronomes viennent de découvrir une nouvelle exoplanète en dehors de notre système solaire. Gliese 486b, c'est son nom. Elle est environ 30% plus grosse que la Terre et presque 3 fois plus lourde. Mais surtout, elle pourrait avoir une atmosphère qui ressemble à la nôtre. Affaire à suivre.
Gliese 486b. Comment on appelle les habitants de Gliese 486b ?
Les Glisois, peut-être.
Merci beaucoup, Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 à 8h tout à l'heure. Une nouvelle édition avec Rémi Bossaron. Très bon réveil à tous sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, la ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, c'est elle qui organise la montée en puissance logistique de la vaccination des chiffres ce matin. Elle répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Dans un instant, le frère Olivier Poquillon. Depuis l'Irak, il va nous parler des chrétiens d'Orient et de la reconstruction à laquelle il prend part. C'est le tête-à-tête Europe Matin. Mais d'abord, la Toucham, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Avis aux nostalgiques, si vous en avez marre du télétravail, une solution existe et elle fout bien le cafard.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h39 sur Europe 1, l'heure de retrouver Bertrand Chameroy. Son regard décalé sur l'actualité, c'est la Toucham. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Les confettis sont prêts, le champagne est au frais, les vaccins aussi. Dans quelques jours, nous célébrerons le premier anniversaire du tout premier confinement. 1 an déjà, oh, ça passe à une vitesse interminable. Alors, en 1 an, si certains mots ont disparu de notre vocabulaire comme plaisir, amusement ou détente, d'autres s'y sont ancrés comme geste barrière, Jean Castex ou encore télétravail. Tiens, à propos de télétravail et dans la série, l'époque n'était pas déjà suffisamment cafard comme ça. Un supermarché du 17e arrondissement de Paris teste depuis plusieurs semaines un nouveau concept. Si vous en avez marre de télétravailler, vous pouvez, pour 15 euros de l'heure, c'est pas donné, bosser ou organiser vos réunions dans une box installée dans le supermarché. Un véritable petit bureau de quartier, selon la start-up à l'origine de l'initiative. Et quel bureau ! 2 mètres sur 1,20 m, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Ça donne super envie. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une phase de test, mais la société vise le déploiement de 200 cabines d'ici un an. Alors je me suis permis de créer leur spot de pub. Si vous êtes nostalgique de l'époque où vous vous rendiez au bureau tous les jours, vous en avez plus qu'assez des réunions Zoom qui bug une fois sur deux, alors si votre boîte vous manque, venez travailler dans une véritable boîte. Installée au cœur d'un supermarché, cette boîte de 2 mètres carrés pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes vous permettra de recréer une ambiance d'entreprise à deux pas de chez vous. Fini le distanciel. Profitez à nouveau de la chemisette Armand-Thierry de Pichard du service comptabilité. Délectez-vous des blagues de ce doux dingue de Berthier et son odeur de sueur masquée par du scorpio. Et tout ça en présentiel. Pour que l'expérience soit totale, personnalisez votre mini-bureau avec un ficus et un cadre photo de vos enfants. Côté restauration, c'est facile. Ouvrez la porte, une farandole de produits vous tend les bras. Lasagne en barquette, paella, choucroute, île flottante, vous retrouverez tous les plats signatures de la cafétéria de votre entreprise dans nos rayons.
Chers clients, nous vous rappelons que notre opération promotion sur la langue de porc se termine ce soir. Profitez-en.
Pratique. La box est isolée phoniquement, idéale pour se défouler dans une discrétion totale.
J'en ai ras-le-cul de ces tableaux Excel.
Il est fou.
Terminez la course contre la montre pour faire les provisions avant le couvre-feu puisque vous êtes au cœur du supermarché. Alors si vous vous sentez à l'étroit chez vous, venez vous enfermer dans un espace encore plus petit que votre appartement. La box de réunion chez Monop pour que l'expression « j'aime ma boîte » prenne tout son sens. J'ai très envie d'aller tester. On se ferait pas la matinale là-bas, lundi ?
On peut se faire une petite réunion, en tout cas, déjà, pour tester. Voilà, moi, j'aimerais juste savoir, à la rédaction, comme ça, là, c'est qui Pichard ? C'est qui Berthier ?
Pichard, je vous les présenterai.
Merci.
Très sympa.
Bertrand Chameroy, la Toucham, c'est tous les matins à 7h40, et c'est sur Europe 1. On vous retrouve à 10h, tout à l'heure, dans Culture Média, avec Philippe Vandel, 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Après y avoir séjourné, il y a 20 ans, Olivier Poquillon est retourné en Irak en 2019 pour reconstruire. Moine, frère dominicain, il va rencontrer le pape lors de son voyage historique qui débute aujourd'hui. Les chrétiens d'Orient, les symboles d'une visite inédite, la reconstruction et la résilience, le frère Olivier Poquillon est mon invité.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Frère Olivier Poquillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Irak depuis septembre 2019, venu pour reconstruire, rebâtir. Alors simplement, quelles sensations, quelles impressions en arrivant à Mossoul ? Racontez-nous ce que vous y avez vu.
En fait, je m'attendais à voir Mossoul plus détruite qu'elle n'était. C'est-à-dire que j'ai été paradoxalement heureux de voir au milieu du tas de ruines que le couvent où j'avais habité en 2003-2004 avait encore un toit. Et même si c'était très endommagé par des frappes aériennes, par des combats qui ont été de très haute intensité autour, au bout d'un an, on a vu les rues se regoudronner, les réseaux d'eau et d'électricité revenir. Mmh. Et puis juste avant le Covid, eh bien, une petite reprise économique dans la vieille ville, avec des familles qui revenaient, des enfants qui jouaient dans les rues. Même dans les ruines, on a vu la vie revenir.
Trois bâtiments sont concernés par un programme de l'UNESCO auquel vous participez. Vous supervisez la reconstruction du couvent Notre-Dame de l'Eure à Mossoul. Ce couvent était occupé par les hommes de Daesh. Ce lieu, à quoi leur servait-il ?
Il a servi de tribunal et il a aussi servi de centre de formation. Mais il a une histoire beaucoup plus ancienne, puisqu'il a abrité la première école de filles de Mésopotamie, la première imprimerie, où ont été, par exemple, imprimée la première grammaire kurde, la première Bible en arabe, la première Bible en araméen. Pour nous, c'est une parenthèse de 3 ans, mais ce qui a fait la force de Mossoul, c'est précisément sa résilience. Là, la vieille ville a été quasiment rasée, c'est quand même un champ de ruines avec un certain nombre de choses qui émergent.
Je reviens à ce couvent que vous avez connu hein, il y a des années. Dans quel état est-ce que vous l'avez retrouvé ?
Alors, c'est toujours émouvant quand on rentre dans l'église dans laquelle on a prié et que les autels ont été détruits. On a des gravats partout, des gilets pare-balles qui traînent, des manuels d'instruction, des choses comme ça. Mm. J'ai toujours tendance, même quand je rentre par un trou, une brèche dans le mur, à vouloir regagner ma cellule, hein, la chambre que j'occupais, et à chercher mon lit, mon bureau, ma bibliothèque. Bon, je sais que ça prendra plusieurs années. Vous imaginez bien que, vu la durée du siège de la vieille ville et l'ampleur des destructions, on trouve du matériel militaire, on trouve des armes, des munitions, des documents, des choses comme ça. Et puis, malheureusement, pas forcément chez nous, mais dans la vieille ville, oui, on retrouve encore des corps qui peuvent être des corps de combattants ou des corps de civils qui ont été piégés là à la fin des combats.
Alors... ces pierres, ce lieu, ce couvent, c'est un lieu de foi, un lieu de paix, dans lequel l'horreur a régné.
Ce couvent, il est tourné vers Dieu, c'est le rôle d'un couvent, c'est un lieu de paix, c'est un lieu qui... il a été détourné de son objectif, il a été utilisé comme un lieu de mort, avec sans doute de la torture et des exécutions. On ne s'habitue pas à l'horreur, on ne s'habitue pas à la barbarie. En revanche, on peut choisir de ne pas en être prisonnier. Le statut de victime, ça n'est pas forcément enviable. Et aujourd'hui, ce qui me frappe chez les Irakiens, c'est cette volonté de passer à autre chose. C'est très intéressant quand on discute avec les jeunes, notamment les lycéens ou les jeunes étudiants. Ce qui les intéresse, eux, c'est de retrouver cette diversité dans Mossoul. L'autre jour, il y en avait un qui me voit, donc en habit dominicain, et qui me dit « Ah, vous êtes un chrétien, je crois que vous êtes mon premier chrétien ». Alors je lui dis, mais non, t'as vu d'autres chrétiens, simplement, les chrétiens de ton âge, ils sont habillés comme toi, tu les reconnais pas, parce que vous avez les mêmes goûts, vous écoutez les mêmes musiques, etc. Ces jeunes, ils associent la diversité à la prospérité. Donc pour eux, la ville de Mossoul a connu son âge d'or, et ils ont raison, hein, au moment où il y avait une communauté très diversifiée, c'est-à-dire des Arabes, des Kurdes, des chrétiens, des Yézidis, des Juifs, des Mandéens. Voilà, donc aujourd'hui, on en est loin, mais on essaye d'y travailler.
Et la visite historique du pape François, il y a ce message qu'il envoie aussi, c'est un terrain que vous connaissez, des roquettes s'abattaient encore cette semaine sur des bases américaines.
Oui, on ne va pas dire qu'on est habitué, mais en fait, il y a effectivement en Irak encore une violence et puis une certaine instabilité.
Mais frère Olivier Poquillon, ça fait débat aussi en Italie beaucoup. Est-ce que le pape ne se met pas en danger ?
Quand le pape François a été élu pape, Il a commencé par prendre une voiture qui traînait là, devant le palais apostolique, et à aller régler sa note dans l'espèce de logement où il était. Le garde du corps est monté dans la voiture et l'a suivi. Bon, bref, je passe sur les détails, mais toujours est-il que quand on lui a fait des reproches sur sa sécurité, le pape a répondu « J'ai plus de 80 ans, j'ai donné ma vie à Dieu, c'est pas à plus de 80 ans que je vais la reprendre. »
Vous allez échanger personnellement avec lui, hein, avec le pape François, dimanche. Vous qui êtes sur place depuis 2019, quel est le message que vous lui portez ?
Ce qui me réjouit, c'est de pouvoir lui présenter les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que je travaille avec Omar, Ahmed, Anes, Mariam, donc des Irakiens, chrétiens et musulmans, avec qui nous mettons vraiment en œuvre la fraternité humaine.
Les chrétiens, c'est 2% de la population irakienne, mais une population qui était là avant même que l'islam n'existe. 1,5 million de chrétiens en Irak en 2000, on estime que ce chiffre se divise par 10 aujourd'hui. Ils ont fui l'horreur, la torture. Est-ce que vraiment, vous croyez aujourd'hui au retour de ces chrétiens en Irak ?
Est-ce que les gens vont revenir ou pas ? Je ne sais pas. Alors maintenant, sur le rôle des chrétiens et des petites communautés qui ne sont pas des minorités, hein, qui sont des autochtones, comme vous l'avez rappelé, elles ont vraiment un rôle qui est un peu semblable à celui, on pourrait dire, de la colle dans les mosaïques. Si vous n'avez pas de couleurs différentes, ça s'appelle du carrelage. Ce qui fait la richesse de l'Irak, ce qui a fait que l'Irak et l'Irak n'est pas seulement une opposition entre empires, entre communautés, eh bien, c'est précisément le fait qu'il y ait une diversité.
Et vous, frère Olivier Poquillon, je regardais votre parcours. Avant cela, vous étiez en poste à Bruxelles et vous vous retrouvez français, frère dominicain, en Irak. C'est autre chose quand même.
Alors oui, c'est aussi le vœu d'obéissance et c'est assez libérant parce que finalement...
L'obéissance, c'est libérant ?
C'est paradoxal, oui. L'obéissance, c'est assez libérant. Quand on m'a demandé, ça m'a paru être une bonne chose. Et alors, s'il y a bien une chose que je ne regrette pas, c'est ça. Je préfère infiniment être sur un chantier à m'occuper de déblayer des gravats et de déminer des trucs et d'essayer de reconstruire en discutant avec les ingénieurs, les architectes, la commune, le gouverneur, etc., plutôt que d'être enfermé dans un bureau derrière un ordinateur.
L'obéissance, c'est libérant. On va méditer là-dessus ce matin. Frère Olivier Poquillon, merci beaucoup.
Merci beaucoup et bon courage en France parce que c'est plus dur, je pense, le Covid pour vous que pour nous.
Oui, ça je ne sais pas, je vais vous faire confiance sur ce point, c'est peut-être un peu dur de se comparer.
Si, ici il fait beau, on peut prendre le café dehors, enfin il y a plein d'avantages.
En liaison,
allez,
merci
courage,
beaucoup.
Hein, on prie bien pour vous.
Hein. Merci frère Olivier Poquillon en liaison depuis Bagdad grâce aux moyens techniques de notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini qu'on va retrouver dans le journal de 8h dans un instant. Olivier Poquillon, frère dominicain en Irak depuis 2019 pour réparer les pierres et les hommes. Merci encore.
Europe 1, Mathieu Béliard.
J'ai dit Bagdad, ça m'est venu comme ça. Il est à Erbil avec Jean-Sébastien Soldaini. Erbil, Mossoul, on est dans une autre région de l'Irak évidemment. On va retrouver l'Irak à 8h tout à l'heure avec Jean-Sébastien Soldaini, je le disais. L'édito politique Nicolas Bétou dans quelques toutes petites secondes.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Anne Hidalgo a accentué hier son offensive contre la politique sanitaire du gouvernement.
Si quelqu'un avait le moindre doute sur la détermination d'Anne Hidalgo à être candidate à l'élection présidentielle, il lui suffirait d'observer ce qui s'est passé à la mairie de Paris depuis une semaine. Une succession d'épisodes, pas tous très glorieux pour Anne Hidalgo, mais qui tous révèlent l'énergie et la volonté que l'élu socialiste est prêt à jeter dans le combat politique. Il y a d'abord eu ce gros couac sur le confinement strict de Paris pendant 3 semaines.
Oui, une demande formulée par son premier adjoint, Emmanuel Grégoire.
Lequel a rétropédalé quelques heures après l'avoir pourtant dit et répété. Et même s'il s'en défend aujourd'hui, il ne fait aucun doute pour ceux qui le connaissent un peu qu'il ne peut pas avoir pris seul l'initiative de cette annonce rocambolesque. À la mairie de Paris, aucune place à l'improvisation dans ce genre de situation.
En tout cas, Anne Hidalgo a pris le contre-pied de son adjoint. Elle a même affirmé qu'un confinement de Paris le week-end serait inhumain.
Oui, et qu'il vaudrait mieux combattre le virus en faisant, par exemple, cours aux élèves dans les parcs et les jardins. Bon, quoi qu'il en soit, cet épisode bancal laissera des traces parce qu'il a mis en lumière jusqu'à la caricature son côté parisiano-parisien, hein, alors qu'elle cherche au contraire, en ce moment même, à nationaliser son image avec quelques tournées en province. Et puis ce changement de pied ne donne pas une impression de grande constance dans les idées ni de sa capacité à travailler en équipe. La majorité présidentielle et la droite n'ont d'ailleurs pas laissé passer l'occasion de la mettre en difficulté.
Est-ce que ça peut remettre en question son idée de candidature, Nicolas ?
Alors au contraire, il y a deux types d'hommes ou de femmes publiques. Il y a ceux qui, lorsqu'ils traversent un épisode tempétueux, baissent la tête et laissent passer l'orage, ça peut être payant d'ailleurs. Et puis il y a ceux qui, au contraire, contre-attaquent et foncent. Et bien c'est son cas. En une semaine, une conférence de presse pour soutenir qu'elle n'avait jamais, au grand jamais, imaginé à un seul instant cette folie de confinement. Une autre de son adjoint qui a été obligé de présenter des excuses. Un discours lors de la remise devant le gratin de la presse politique du prix de personnalité de l'année. Une interview au journal Le Parisien. Et pour finir, une tribune publiée dans Le Monde. Et à chaque fois, une attaque en règle du gouvernement et de sa stratégie sanitaire. Parce que, bien sûr, la meilleure défense,
c'est l'attaque.
Et depuis une semaine, on est plus dans le carpet bombing que dans la contrition. C'est un signal que ses adversaires ne devraient pas négliger. Pour être candidat à une compétition aussi dure, aussi exigeante qu'une élection présidentielle, il faut une volonté et une résistance hors du commun. Le combat politique autour de 2022 n'est pas encore vraiment engagé. Mais une chose est déjà acquise, Anne Hidalgo voudra en être et elle ne lâchera rien.
L'édito politique, merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. C'est tous les matins avant 8h sur Europe 1. Et tous les matins, Nicolas Canteloup conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'industrie, responsable du déploiement de la vaccination. Et Bruno Le Maire voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour monsieur Béliard, monsieur Bétou, quel duo formidable vous êtes. Je vous écoute avec gourmandise. Quand monsieur Bétou commence à répondre à une question que vous, monsieur Béliard, n'avez pas commencé à poser, mais qu'il connaissait déjà à l'avance, c'est formidable.
C'est
vous êtes des virtuoses.
Mais la question était très bonne.
Oh là là, c'est formidable. Je me régale. Je me demande si je vais être plus drôle que vous. Bref, bonjour monsieur Cavrois, je ne vous oublie pas. Et bonjour Agnès Pannier-Runacher qui nous écoute peut-être. Agnès, vous le savez, est chargée de la production des vaccins. C'est sérieux. Enfin, elle n'est pas chargée personnellement. Elle n'est pas dans sa cuisine à touiller une grosse marmite avant d'en verser une louchette dans des tubes à essai. Pas comme la femme de monsieur Cabrol quand elle fait une soupe. Non, carrément, elle supervise les usines. On a une autre dimension, vous voyez. J'ai envie de lui dire, Agnès, on s'apprête à produire des millions de doses, mais pour l'instant, les gens n'en veulent pas. On a 75% de AstraZeneca qui dort dans les frigos. On en veux-tu, en voilà du AstraZeneca. Alors, ce matin, s'il te plaît, Agnès, donne envie aux gens. Fais un truc du genre, je ne sais pas, moi. La vaccination, c'est le passeport pour un monde plaisir. Un monde fait de restaurants chics et de mojitos en terrasse, avec Monsieur Bétou et Monsieur Béliard. La vaccination, c'est le plus court chemin vers un slow sensuel en boîte de nuit avec Monsieur Cabrol. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Fais-nous rêver, mais avec ces putains de vaccins, bordel.
7h57, c'est signé Nicolas Canteloup. Et on retrouve Agnès Pannier-Runacher à 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. La revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie. C'est à 9h moins le quart tout à l'heure. Très bon réveil à tous. À 7h58, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et avec vos températures, chers amis, vous en avez besoin, puisqu'il fait froid ce matin. Alors, sans tenir compte de la bise, j'en parle depuis ce matin, mais cette bise, elle est particulièrement forte, 50-70 km/h sur les côtes de la Manche, par exemple. Eh bien, cette bise rafraîchit l'atmosphère. Alors, sous-abri, hein, 1 degré au Touquet en ce moment, 4 à Lille, 5 à Paris, alors qu'il fait 1 degré seulement en plein vent, 6 à Strasbourg, 7 à Brest, 8 à Lyon, 9 à Marseille. Le temps sera globalement ensoleillé, excepté sur l'Alsace, la Franche-Comté, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes et la Haute-Vallée du Rhône, où nous aurons là, dans ces contrées, un temps souvent pluvieux. Partout ailleurs, ce sera, bon, d'abord nuageux, comme c'est le cas en ce moment, et ensuite progressivement le soleil. Le soleil va revenir de manière rayonnante sur les côtes de la Manche. Il viendra de manière poussive un peu sur les Pays de la Loire, le Limousin, le Berry, la région parisienne et le Morvan, comme la Lorraine et le Rhône, pardon. Et puis partout ailleurs, bon, ce sera légèrement voilé. Mais c'est une journée plutôt sympathique quand même, puisque le beau temps revient, mais la froidure va persister une grande partie de la semaine et la semaine prochaine. Voyez déjà pour demain et après-demain, le soleil pour demain, le soleil sur la moitié nord pour dimanche, alors qu'il fera mauvais sur la moitié sud. Mais dans l'ensemble, c'est un congé plutôt sympa, avec des températures qui resteront malheureusement assez froides.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, installez-vous ensemble, on écoute le monde changer.